Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je me lance aussi pour retrouver une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième.
Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 ouais. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les 3 ou dans les 5?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Jean-Claude Van Damme. C'était plaisir, il est de retour. 1 plus 1 égale 11, plus un petit jour de Rennes aussi qui nous rappelle des souvenirs.
C'est pas 1 plus 1 égale 11, c'est 1 plus 1 peut faire 11. Il reste dans une sorte d'imaginaire.
Oui, mais il dit quand même le football, t'es là, t'es selfish, tu penses qu'à ta gueule. Tu connais le moyen mnémotechnique pour la table des 11?
Oui.
11 fois 14.
114.
Non, 154. t'additionnes le 1 et le 4 et tu le mets au milieu.
De chaque côté, tu l'additionnes et tu mets au milieu le résultat.
Donc ça fait pas 114. Hein.
Ben, c'est parce que j'ai raté l'addition. Mais j'avais le truc. Le truc, je l'avais.
Très bien. Nouveau jingle, merci Daniel.
Alors donc, tu as le. Non, le pire, c'est quand tu as le moyen mnémotechnique, mais que tu ne sais pas l'utiliser. Ouais. Ça, c'est
une addition. Alors, l'Italie, on va en parler juste avant. Je vous signale que RMC vous offre, et vous le savez depuis le début de la semaine, un match au Qatar pendant la Coupe du Monde. Donc, le match Tunisie-France, en l'occurrence, le 30 novembre. On vous offre le vol, l'hébergement, vos places pour le match.
Tout. Et il y a encore des hôtels?
Ouais, c'est dans ta chambre. En fait, c'est prévu.
C'est le deuxième lit. C'est le deuxième lit single.
Le petit lit, hein, c'est prévu. Là.
D'accord. Mais il y a. Oui, non, mais donc, il y a encore des chambres dispo, alors.
Bah, c'est prévu à l'avance, c'est organisé, c'est anticipé. Ah, voilà, par nos équipes, comme on dit.
Très bien.
Donc, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner ce cadeau magnifique, tout de même, il faut le dire, c'est un beau cadeau, vous envoyez RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16.
Et ils sont dans. Le gars qui gagne, il est dans le même hôtel que là où on va être, nous?
Je ne sais pas.
Parce que ça pourrait agrémenter la récompense. Savoir qu'il va te croiser au petit-déj quand tu vas aller chercher tes graines.
On peut ajouter un tennis avec Daniel Riolo à 10h le matin.
Ouais, faut que le mec soit bon. Hein.
Ah non, faut que tu sois levé,
Daniel.
Hein,
faut que tu sois levé.
Oui, non, moi je me lève tôt. Moi je me lève tôt. Mais oui, il faut que le mec ait un certain niveau. Hein. Je sais pas. Tu vois,
on pourrait le diffuser en direct.
Au moment où je traverse le texte de ma carrière, ça va vous perdre mon temps non plus.
Très bien.
En revanche, prendre le petit-déj avec toi, tes graines et ton yaourt, ça peut valoir le.
Non, il peut surtout aller faire un footing avec Gilbert, le mec, il va mourir.
Alors, non, mais les graines au petit-déj.
Fini?
Non, pourquoi pas.
T'es parti au beefsteak?
Non. Non, mais. faire du salé, effectivement. Bref. Tiens, le Final Four, on va en parler tout de suite avec Johan Crochet et avec Didier Deschamps. Didier?
D'être qualifié pour le Final Four.
Ouais, merci Didier. Pour un accent.
Comment il dit?
Final Four.
Final Four. Qualifié pour le Final Four.
Final Four.
Franchement, des fois.
Final Y.
Non, j'aurais fan comme le fan. I. Le jeu. Four.
Final.
Des fois, je me dis.
Fan, jeu, 4.
Final.
Des fois, je me dis qu'on est vraiment des salauds.
Surtout toi.
Ouais, bon, en même temps, c'est drôle. Comme on rigole de nous aussi, bon, voilà. Tu remets-le pour l'eau pour voir.
D'être qualifié pour le Final Four.
Ouais. Ben, l'Italie y est au Final. Au Final Four. L'Italie y est. Alors, il y aura l'Italie, il y aura les Pays-Bas, il y aura le Danemark.
Le Danemark, c'est la Croatie.
La Croatie, pardon, et le quatrième.
Ben, c'est le vainqueur de Portugal-Espagne.
Exactement, demain. Est-ce que c'est une sorte de
peut-être
course.
Peut-être même pas. Peut-être quelqu'un nul, le Portugal reste devant, non?
Je sais pas, on verra demain.
Oui, faut que l'Espagne doit gagner. Un des deux, je voulais dire. Ouais. Oui, avec un nul, le Portugal reste devant.
Est-ce que c'est une sorte de consolation pour l'Italie ou pas
non,
du tout
console, voyons. Non, ça peut pas être une consolation pour un mondial perdu, ça c'est pas possible.
Mais, en plus, on sait même pas ce que c'est, ce Final Four.
Le truc, c'est que la réaction de Roberto Mancini à la fin du match, elle a été assez rigolote parce que quand on lui a dit, bon, maintenant, les prochaines échéances, c'est quoi? Se qualifier pour l'Euro, etc. Il lui dit, prochaines échéances, c'est déjà, il faut absolument qu'on passe le mois de décembre parce que jusque-là, ça va être très compliqué à vivre. Voilà, c'est une déception qui est immense pour tout le monde. Et même si là, t'as redonné un peu de couleur à la sélection et que il y a plein de choses positives dans les matchs qu'on a vus, la Coupe du Monde est encore en ligne de mire et tu vas penser qu'à ça. Et quand les matchs vont se dérouler, tu penseras qu'à ça. Et il faudra attendre début 2023 pour, ça y est, tirer un trait sur cette Coupe du Monde ratée. Mais non, ça peut pas être une consolation. C'est bien. Ça montre qu'il y a de la réserve. Ça montre que les joueurs sont impliqués. Ça montre qu'il n'y a pas un état dépressif total dans cette sélection et même chez le staff. Mais non, rien ne remplacera l'amertume d'une Coupe du Monde ratée pour, je le rappelle.
À cause d'un péno manqué.
Ouais.
Ça ne passera jamais, ça. Ça ne peut pas.
Non, bah difficilement, parce que t'aurais été plus bactère et absolument nul, et bon, bah tu te dis on a tout foiré, on a été nul, etc. Là, tu te dis à quoi ça se joue. Tu gagnes l'euro grâce à des pénaltys et tu vas pas à la Coupe du Monde à cause de pénaltys.
Dis-moi, Nyonto là, il se fait sa place, hein.
Ouais, alors ça a été un match compliqué pour lui, mais
c'est pas la grande finesse quand même, hein.
Bah, c'est un joueur qui va très vite, pèse, que il tu pèse. Peux utiliser en profondeur. C'est pas un joueur qui donne beaucoup de repères, c'est pas qui prend bien les espaces. Donc c'est un joueur intéressant. Il avait été peut-être plus intéressant au mois de juin qu'il ne l'a été là lors de cette séquence de deux matchs. Mais c'est clair, hein, l'Italie se cherche des attaquants. Alors Raspadori, ça se passe très bien. Là, il faut quand même souligner le fait que sur les deux matchs, Mancini est passé à une défense à 3, donc sur un 3-5-2. Lui qui a pas bougé pendant plus de 40 matchs de son 4-3-3 habituel, parce qu'il y a aussi beaucoup de blessés sur les ailes, et donc c'était difficile de proposer un 4-3-3 sérieux qui tenait un peu la route. Mais c'est un jeune joueur, voilà, on verra ce que ça va donner, comment il va évoluer cette année maintenant qu'il a un peu plus de pression. Ouais. Face à des performances attendues maintenant, alors qu'il tout le monde le découvrait il y a quelques mois encore. Mais non, c'est pas la grande satisfaction. La grande satisfaction de ces deux matchs, parce qu'on peut sortir de ce simple match contre la Hongrie et prendre celui contre l'Angleterre, c'est Raspadori devant, clairement. Di Marco côté gauche, en piston gauche, qui fait vraiment deux très bons matchs pour le coup. Di Lorenzo à droite.
Et que devient Spinazzola alors?
Bah, Spinazzola, alors il a demandé à Mancini de pas le convoquer pour qu'il travaille pendant 10 jours de façon très intense avec la Roma pour que vraiment il revienne bien. Il a joué plusieurs matchs cette saison, mais tu sens qu'il a pas le...
Il a plus la vitesse qu'il avait.
Ouais, il y a, en termes de d'explosivité, de coup de rein, et puis même tu le sens pas trop.
Redoutait, hein.
Tu le sens pas trop sûr de ses mouvements, en fait. C'est ça qui me, c'est même pas trop une question d'explosivité ou même de vitesse. Moi, qui me frappe vraiment à l'œil, c'est le côté, je suis pas trop sûr et j'ose pas tout encore.
Ouais, mais ça c'est normal sur la période. Ça veut pas dire qu'il le retrouvera pas.
Exactement. Ouais, je suis assez d'accord. C'est peut-être plus un déclic mental qu'il faut avoir que plus physique, d'ailleurs.
Que tu sois sûr d'aller appuyer sur tous tes appuis comme un dingue, comme avant, surtout dans son style de jeu et vu ce qu'il a eu. C'est pas étonnant que...
Et franchement, quand vous regardez un petit peu cette sélection, je vais refaire la liste d'absents que j'ai donnée tout à l'heure dans Génération After, mais Verratti, Tonali, Pellegrini, Immobile, Chiesa, Spinazzola, Berardi, Politano, Zaniolo, Florenzi. Bon, ça fait quand même du monde, quoi. Là-dedans, il y a bien 6 ou 7 titulaires. Et honnêtement,
c'est que
la trame de jeu, elle y est toujours. L'état d'esprit, il y est toujours. Ce soir, vous avez 60 minutes. Où ils sont ultra agressifs, où ils pressent, où ils récupèrent des ballons hauts, où ils mettent en difficulté la Hongrie, où c'est vrai. Alors après, les 30 dernières minutes, c'était très compliqué. Physiquement, ils ont lâché. Puis en face, c'est des Golgothes, hein. Les mecs, tu rebondis sur eux, hein. Les petits Barella, Jorginho, Raspadori, Nyonto, au bout d'un moment, ils rebondissaient sur eux, hein. C'était les auto-tamponneuses, hein. Mais t'as été maintenu par un super Donnarumma. Je pense que c'est, en termes d'arrêt décisif, etc., c'est un des meilleurs matchs de Donnarumma avec la sélection.
Mais il n'a pas pu s'empêcher la petite boulette, le ballon savonneux.
Oh, le ballon second poteau, c'est insupportable. Je comprends pas qu'il puisse pas progresser sur cet aspect-là. Moi, c'est depuis ses débuts à Milan, les ballons au deuxième poteau, la lecture et l'analyse des trajectoires, c'est pas possible que le ballon soit entrant, sortant, fuyant de l'extérieur du pied, de l'intérieur du pied. Enfin, il n'y arrive pas. C'est bizarre. Et moi, je me souviens, petit aparté là-dessus, mais je me souviens d'un médecin d'un club de Ligue 1 qui m'avait expliqué qu'il y avait un gardien qui avait beaucoup de mal sur les ballons hauts. Et en fait, ils avaient fait intervenir une sorte d'opticien plus.
Bah, dit tout à l'heure.
Et en fait, c'était une question de vue dans l'espace.
Moi, je te le dis, il a un problème. Il a un problème de vue.
Ouais, mais je pense, bah, et ça, ça peut être corrigé.
Personne ne lui dit fait quoi, qu'il a un problème de vue.
Bah, ils avaient fait beau. Alors pour ce gardien-là, ils avaient beaucoup d'exercices sur de la vision à 180 degrés, etc., sur la gestion de la profondeur, etc. Et ça avait eu beaucoup d'aspects positifs. Donc peut-être que c'est un travail qu'il doit faire. Peut-être que c'est ce problème-là. Peut-être que c'est totalement autre chose. Mais c'est pas possible que sur chaque ballon au second poteau, il y ait danger. Ça, c'est clair.
Dernier mot, Jorginho. Bon, rappelez-vous évidemment de l'Euro, tout ça. On avait du Jorginho plein la bouche.
J'allais lui poser la question. Est-ce qu'il est sorti de son état dépressif quasi permanent?
Ah, il est bien là sur les deux matchs. Mmh. Je l'ai trouvé vraiment bien. Après, honnêtement, contre l'Angleterre, il y avait tellement pas d'opposition que c'est un peu dur à juger. Mais je l'ai trouvé pas mal. La question maintenant va être de voir avec quel schéma il va continuer. C'est pas forcément qu'une question de schéma, mais c'est en conséquence les hommes qui vont être choisis, parce que dans ce 3-5-2, t'as aucun intérêt à mettre un double playmaker comme il l'avait mis. À l'Euro, c'était le double playmaker, c'est Verratti, Jorginho, c'est deux joueurs pour sortir les ballons et construire de derrière. Parce qu'à partir du moment où t'as deux stoppers qui sont capables d'apporter le danger, de porter le ballon, de faire des passes verticales, ah, tu vas pas en plus ajouter deux milieux de terrain comme ça. Il faut des profils différents, donc il faudra voir si ça continue sur un 3-5-2 ou si ça repasse à un 4-3-3. Mais en tout cas, la variété tactique de l'Italie est aussi une chose nouvelle et intéressante.
Ah, mais c'est d'autant plus, tu parlais de la salade de regret, je la trouve d'autant plus amère que cette année, il y a des doutes un peu sur pas mal, comme on l'a dit tout à l'heure, de grosses sélections.
Ouais.
Donc c'est vrai que là où, comme toi tu dis, il y a une trame, il y a du jeu, il y a des réservoirs, etc. Nous, tu vois, on se pose des questions en France, il y en a en Espagne, je vous ai entendu tout à l'heure, il y en a aussi en Allemagne, même si Polo s'en posait moins. C'est un, voilà. Bon, après, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai que...
Et juste pour info, c'est 4 défaites en 50 matchs, sur les 50 derniers matchs.
Merci Johan, bonne soirée, et on se retrouve demain pour les Pays-Bas.
Hein. Exactement.
Voilà, puisque tu le sais maintenant.
C'est mon nouveau pays.
Va falloir que tu t'en
avec l'ami Louis van Gaal, bien sûr.
Exactement. On pourrait même te filer le Danemark.
Bon, vous savez que je le suis depuis longtemps. J'ai vécu quelques mois à Copenhague, donc le Danemark, je connais très bien.
Ah, il est plein de surprises, hein, Johan, vous avez vu, c'est pas au courant.
Il a des dépendances que l'Italie ne soupçonnait pas.
Y a-t-il quelque chose de...
Oui. Mon cher Daniel, retour à l'Empire romain et tout nous appartient.
C'est anecdotique. Hein.
Retour à l'Empire romain et tout nous appartient, mon cher Daniel.
Ah, ça, effectivement.
Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume du Danemark?
C'est mal terminé, quand même. Hein.
De quoi?
L'Empire romain.
Oh. C'est mal terminé.
Vous êtes fait envahir par les barbares. Excusez-moi.
Tu vis encore sous influence de l'Empire romain.
D'accord.
Tout ce que notamment tu fais la aujourd'hui langue. Est encore marqué. Mais ils
ont
pas, de ça.
On va dire qu'ils ont eu un peu de mal à maîtriser la géographie. C'était trop grand.
Il y a quand même quelques siècles quand même.
C'était trop grand.
L'Empire. On est pas en train de parler de 1 ou 2 ans. On parle de siècles.
Mais l'Empire romain, c'est comme les sélections dont on parle, qui ont été championnes du monde, je sais pas, d'Europe, et qui à un moment donné, il y a un déclin naturel.
Enfin, il y a eu beaucoup là, des Coupes du Monde là. Quand même.
Bon, merci Johan, bonne soirée.
À demain, bonne soirée, ciao ciao.
Dans un instant, on part au Qatar. Dans moins d'une minute, on est de retour. On va avoir une vision qatari de la Coupe du Monde. C'est intéressant parce que nous, on fait les débats en France. Finalement, quand est-ce qu'on pose la question aux gens qui vivent sur place? Et bien maintenant, dans l'after, messieurs, dames, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h18, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, messieurs, dames, la Coupe du Monde, vous le savez, c'est dans un peu moins de 2 mois, un peu plus de 50 jours. Et il y a quelques jours de ça, je vous ai raconté qu'un match test avait été organisé au Qatar pour rôder les stades et tout, et qu'il y avait eu plein de problèmes. Alors les retours que j'avais eus, c'est pas d'eau potable au stade, la clim qui marche pas, des temps de transport beaucoup trop longs, en gros, un gros bordel. Et suite à ça, j'ai reçu un message d'Ismaïn, qui était présent justement lors de ce match et qui voulait témoigner. Et moi, je trouve ça super parce que c'est vrai que, comme je le disais juste avant la pub, nous, on débat, alors boycott, pas boycott, là, c'est pas vraiment le sujet du soir, mais finalement, on prend jamais l'avis des gens sur place. Ismaïn est français, il vit au Qatar. Bonsoir, Ismaïn.
Bonsoir à tous.
Salut.
Vous allez bien?
Bien, et toi?
Très bien, très bon. Très bien. Un peu tard ici, là, mais ça va.
Il est minuit, c'est ça? Minuit 18?
Ouais, minuit 18 exactement.
Et non, bon, on est désolé de t'avoir fait attendre, mais on est content de t'avoir. Ce sera 2 heures quand on passe
en hiver.
En heure d'hiver, en fait.
D'accord. Okay.
Le Qatar bouge pas, c'est ça. Il y a pas d'heure d'été.
C'est ça, exactement.
Voilà. Bon, Qatar, en même temps, il y a pas de problème de comment dirais-je d'énergie. c'est pas l'énergie. Que nous on change de.
Allez, que nous on change d'heure. Sous Giscard, oui. Ce changement d'heure avait été.
Économie d'énergie.
Décidé pour des économies
d'énergie. Il paraît qu'on va y renoncer. Donc prochainement. Au changement d'heure.
Oui, mais alors, non, si c'est pour rester à l'heure d'hiver, merci bien. Moi, je suis d'accord pour rester à l'heure d'été.
Depuis 10 ans, et puis ça, ouais. Chaque année, ça continue.
Bon, tu étais à ce fameux match, Ismaïl ?
Exactement, ouais. Moi j'étais à ce fameux match et du coup nous on écoute ici toujours en podcast le lendemain matin les émissions et du coup c'est vrai que il y avait plein d'inexactitudes comme c'est pour ça que je vous avais contacté. Moi j'y étais, la clim marchait très bien justement. Mm-hmm. Là c'était il y a deux semaines.
Ah mais la clim on veut pas qu'elle marche justement.
Oui, non, mais c'est juste pour revenir oui, là-dessus.
Pour être factuel sur les problèmes.
Voilà, pour être factuel, c'est ouais. qu'il faisait 45 degrés, il y avait un gros taux d'humidité, et c'est vrai que quand on est dans le stade, bah d'un coup, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on est à l'aise, quoi.
Donc là, il fait encore 45 degrés, dans 50 jours, il en fera beaucoup moins.
C'est en train de redescendre, donc là, redevient agréable de sortir le soir. Et après, au mois de novembre, il fait vraiment bon. Et comme je disais à votre réalisateur, au mois de novembre, même le soir, dans les bars, etc., ils nous passent des plaids et tout parce qu'il fait un peu frais.
Donc on prévoit quand même une petite
laine.
Il faut prévoir une petite veste, pas ouais, sur cette période-là.
Bon alors donc la clim marchait.
Après, il y avait l'eau.
Alors oui, donc, on nous a dit pas d'eau potable au stade, ça a créé des gros problèmes.
Enfin, les gros problèmes. Après, moi, pour être honnête, je les ai pas vus. Après, l'eau, déjà, il y en a très peu qui déjà la boit même dans les appartements ou dans les maisons. Voilà, on boit déjà très peu l'eau du robinet, donc c'est vrai qu'on est habitué à ça. L'eau est vraiment. Moi, j'ai la chance d'aller dans pas mal de stades et l'eau coûte vraiment pas cher. Donc c'est voilà, pour un stade, l'eau était à 1,50€. Donc moi, j'ai l'habitude d'aller acheter l'eau, etc. Donc en fait, ça me semble pas être un problème. Je suis parti à l'euro féminin cet été. Pareil, dans les stades anglais, j'arrivais pas à aller chercher de l'eau. Enfin, jamais j'aurais été boire de l'eau dans les toilettes. Et l'eau, elle était à 8-9€. Ah oui. Et il y avait la queue et c'était compliqué. Ici, ça coûte 1,50€. Les stades sont énormes, donc il y a beaucoup d'accès. Donc en fait, ça me semblait pas être un problème.
D'accord.
Et pourtant, on peut pointer plein de défauts d'organisation.
C'est vrai que l'eau potable, tu vas rarement boire l'eau du robinet au goulot dans un stade.
Tu vas au chiottes au stade et tu fais la tête au robinet pour boire l'eau. J'ai jamais vu personne faire ça.
Bah oui. Donc c'est vrai que pour moi c'était pas un souci. Le vrai souci,
l'autre point noir, c'était les transports aller-retour.
Voilà, le vrai souci, il est là, c'est que il y a le métro qui est très accessible, mais par contre sur ce stade-là, qui est le stade de la finale de la Coupe du Monde, le métro dépose assez loin. Et eux avaient la bonne idée en plus de pas ouvrir, c'est-à-dire tout autour de stade, mais de rassembler tous les fans à un seul endroit précis, ce qui faisait beaucoup de monde et beaucoup de queues. Et après, quand tout le monde avait passé ce truc d'étranglement, là, ils laissaient les fans partir aux portes. Et là, vu qu'il faisait 45 degrés avec un gros taux d'humidité, là, c'était l'enfer. Tout le monde était en transpiration. Et c'est vrai que s'ils font ça pour la Coupe du Monde, avec tous les fans qui se réunissent, c'est vrai que c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des problèmes d'organisation, mais sûrement pas autant que ce qui avait été dit à ce moment-là.
Donc toi, t'en pointes un gros, c'est celui de l'évacuation des gens à la sortie du stade.
L'arrivée.
L'autre, le reste, c'est de l'anecdotique, mais...
Pour moi, c'est vraiment l'arrivée. C'est-à-dire, à chaque fois, ça va être quand ils vont arriver au stade, les fans, vu que les stades vont être vraiment pleins. Pour moi, là, ça va être compliqué. S'ils utilisent la même organisation, ça va être compliqué. Parce qu'un stade, et un stade, normalement, c'est fait justement pour accueillir les fans tout autour du stade, ce qui permet de pouvoir disperser tout le monde, alors que eux veulent les faire passer tous à un endroit, puis après les disperser. Et donc, quand on arrive à cet endroit-là, bah, du coup, d'un coup, il y a 60 000 personnes et ça devient hyper compliqué à passer.
Mais ça, tu penses qu'ils vont se servir de l'expérience? Ça paraît évident qu'ils ne reproduisent pas?
Moi, je pense que ouais, parce qu'ils font quand même, moi, j'avais fait la Rap Cup aussi l'année dernière. Sur 3 matchs, ils avaient pas fonctionné comme ça. Là, c'était sûrement parce que c'était le premier match à ce stade-là, parce que c'était le stade de la Coupe du Monde, le stade de la finale qu'ils inauguraient. Donc, à mon avis, ils étaient encore peut-être pas prêts sur ce point-là. Mais je pense que pour la Coupe du Monde, ça sera réglé.
Alors, c'est intéressant de t'avoir, Ismaïl, par ailleurs, sur d'autres sujets. Bon, je ne sais pas si tu suis l'actu de près en France, mais il y a des débats sur les chaînes d'infos, dans les émissions de sport, boycott, pas boycott, ça commence à monter, les politiques qui s'en emparent et tout. Au Qatar, on en parle ou alors vraiment pas du tout?
Si, si, bien sûr qu'au Qatar, on entend. Enfin, après, moi, je suis un passionné de foot. Donc, voilà, je vous écoute. J'écoute beaucoup d'émissions. Et c'est sûr que nous, en tout cas, entre expatriés, on en parle. Après, voilà, c'est nous. Moi, si je suis venu ici dans ce pays, c'est parce que j'étais passionné de foot et curieux de voir comment ce pays allait accueillir la Coupe du Monde. Donc, je vais pas vous dire que je vais boycotter. Voilà, c'est juste pas possible. Mais en tout cas, on en parle. Tous ceux qui sont là, bien sûr, qu'ils ont hâte de recevoir la Coupe du Monde parce que nous, on voit ce qu'est Doha. C'est tout petit. On voit tous les stades où ils sont à moins 20 minutes l'un de l'autre. Et on se dit comment une ville comme ça peut accueillir autant de monde.
Donc c'est la question que énormément de gens qui connaissent. Alors moi, je ne connais pas Doha, mais je connais des gens qui connaissent. C'est ce que tu es en train de dire confirme ce que j'ai beaucoup entendu à ce sujet.
Ah bah c'est clair.
Comme hein, interrogation. Nous... C'est comment un pays si petit avec tous ces stades rapprochés, ça va pouvoir gérer tous les gens.
Bah déjà de toute façon ils ont pris des mesures quand même assez fortes hein. toutes les écoles sont fermées pendant la Coupe du Monde, donc il y a arrêt total des
écoles.
Exactement, les entreprises ont une obligation d'envoyer 80% de leurs employés en télétravail pendant la Coupe du Monde, donc en fait ils vont tout faire pour que les gens restent chez eux. Il y a beaucoup d'endroits qui vont être fermés, qui vont être ouverts seulement soit Uber ou soit, alors ils ont mis une grosse campagne de bus aussi électriques. Donc voilà, leur but c'est de pouvoir libérer au maximum les routes de toute la population pour que tout soit consacré à la Coupe du Monde. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une ville qui de base n'est pas faite pour recevoir 1 million, 1,5 million de personnes sur un mois. Et après nous, c'est ça, c'est la curiosité qu'on va avoir, parce que nous voilà, on sort, il n'y a pas non plus 1 milliard d'endroits pour sortir. On se dit comment ils vont faire pour pouvoir gérer tout ça. Pour gérer la population étrangère qui n'est pas habituée à cette culture. Enfin voilà, c'est vraiment la grosse curiosité qu'on attend tous, quoi.
Ouais, alors on rappelle qu'il y aura des zones un peu réservées pour la consommation d'alcool, mais qu'il y aura une consommation d'alcool possible. Au départ, il y avait débat là-dessus. Alors il y a aussi la fameuse histoire de quitter le territoire 48 heures après le dernier ticket match que tu as. Alors ça, apparemment, voilà. ils sont revenus aussi là-dessus, les Qataris. Hein.
C'est-à-dire que je voulais revenir là-dessus parce que ce soir-là, c'était Kevin Diaz, je crois. Qu'il l'avait sorti.
Bah nous on a lu ça en France, hein, donc voilà.
Tu... Ouais, non, ça a été démenti. Maintenant il y a un petit moment. En gros, ceux qui vont avoir cette fameuse Aya Card, donc c'est le seul visa qui permet de rentrer au Qatar pendant la Coupe du Monde, ils peuvent rester jusqu'au 23 janvier. Donc voilà, si vous êtes éliminé, vous pouvez rester au Qatar. Si votre équipe est éliminée, vous pouvez rester au Qatar. Vous pouvez visiter, regarder d'autres équipes jusqu'au 23 janvier. En gros, ce visa est valide.
La problématique des travailleurs sur les stades, je sais pas, toi tu les croises, tu les vois, t'as un avis
nous on les voit parce que le pays la ville est en totale transformation, hein, donc c'est sûr qu'on les voit. Nous on vient d'un pays où c'est vraiment différent, et c'est vrai que c'est la partie du Qatar qu'on aime pas voir. Mais comme quand je voyage dans d'autres pays et je vois d'autres choses que j'aime pas voir. Mais voilà, après malheureusement c'est des combats qui me dépassent et donc on essaye de faire du mieux à notre petite échelle, quoi.
Bon, Ismaël, on reste en contact, hein, parce que quand on sera sur place, si tu veux passer nous voir, déjà tu seras bienvenu.
Avec plaisir.
On aura un studio où tous les soirs l'after sera réalisé, donc avec le décalage horaire sur place à minuit, 22h en France,
pour se déplacer dans certaines zones de la ville.
Ah, je ne sais pas. Il y a des quoi?
Des par exemple, est-ce que nous on aura un pass pour aller que au stade, et il y a des endroits où on pourra pas aller, ou on pourra aller se déplacer totalement librement partout?
Non, c'est la ville elle est totalement ouverte, et justement leur intérêt c'est que tout le monde découvre les différents quartiers, parce que pour eux c'est une grosse loupe sur tout ce qu'ils peuvent ouvrir de manière touristique.
Le matin, avec Gilbert, on pourra aller se balader, je pourrai aller faire mon tennis.
Exactement, je te montrerai les beaux terrains qu'il y a.
Pour jouer, hein.
Bah, tu peux louer tes terrains, tu sais, il y a des terrains extérieurs qui sont top, il fera très bon à ce moment-là, même à 10h du matin, je vous entendais tout à l'heure, mais en novembre.
Je pense que tu auras le droit au grand classique Rotten Riolo sur un
tour.
Et je peux t'assurer que ça vaut le spectacle.
Je viendrai voir ça avec plaisir.
On fera pas payer les entrées, mais ça vaudra le coup.
C'est un peu comme Nadal Djoko, on en est à 34 victoires à 32.
C'est un peu ça.
Ouais. Mais est-ce que si l'un se retire, l'autre va pleurer ou pas?
Je pense.
C'est Daniel le plus sensible. Merci Ismaël en tout cas pour ce témoignage et on reste en contact. Puis si t'as des infos à nous faire parvenir, hein, tu sais comment faire.
Ça marche.
Il y a pas de problème. Salut, bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Allez, dans un instant on revient avec les tribunes. Et oui, les tribunes parce que il y a des supporters parisiens du virage Boulogne qui veulent relancer ce fameux virage sulfureux à l'époque. Alors dans quelles conditions, pourquoi, quelles sont leurs revendications, quelle est leur démarche. On va tout savoir dans quelques instants. Et en plus, ça nous permettra d'ouvrir un peu le débat sur l'ambiance de nos tribunes, sur ce qu'on veut finalement dans nos stades aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
23h32, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là également. On va oublier le foot international, la Coupe du Monde, pour revenir à l'actualité de nos tribunes. Et il y a une actualité là parisienne en fait qui fait écho à ce qu'on vit ces dernières semaines dans les tribunes de stade, parce qu'on est toujours un peu partagé entre l'envie d'avoir des grosses ambiances au stade et en même temps quand il y a des débordements on se dit mince, comment c'est possible qu'on n'arrive pas à maîtriser tout ce qui se passe, encore récemment à Nice. Et ben en France il y a une tribune emblématique de ces, on va dire, de ces 30 dernières années, c'est la tribune Boulogne du Parc des Princes. Tribune qui a été très politisée à un moment, qui a été en partie à l'origine du plan Le Prou à l'époque de la guerre entre les deux tribunes, Auteuil et Boulogne. Et tribune qui a été volontairement, Daniel, mise en sommeil par le club, en fait. Hein. On ne voulait plus d'une tribune Boulogne comme elle existait avant le plan Le Prou. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un stade, un Parc des Princes, où en gros, il y a une tribune qui met l'ambiance, qui fait du bruit, c'est la tribune Auteuil, avec le CUP qui a été donc une initiative finalement récente du PSG, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité ces dernières années. Donc les anciennes assos ne sont plus là, n'existent plus, même s'il y a sans doute pas mal de membres des anciennes associations qui sont toujours aujourd'hui dans le CUP. Voilà. Mais à Boulogne, il n'y a plus rien. Là est née une initiative.
Ah, donc on peut juste...
Avant que je passe à l'initiative, ouais. Apporter quelques précisions si tu veux, vas-y.
Dans un premier temps... Après la fameuse guerre dont tu as parlé, qui a quand même débouché sur la mort traumatisante d'un supporter. Enfin, pour tous ceux qui allaient au Parc des Princes depuis des années, savoir qu'un supporter mourait à côté du parc, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Ce sont les deux tribunes qui ont été sanctionnées. Il n'y avait plus de supporters en tant que tels qui venaient au Parc des Princes au moment du plan Le Prou. C'était une sorte de nettoyage où des deux côtés on a nettoyé, puisqu'il y a même des associations qui étaient dissoutes de partout. On en a même parlé la semaine dernière au moment des incidents de
avec
Nice.
Les fameux Supra,
voilà, où on a retrouvé des membres qui ne venaient plus au stade, ex-supporters du PSG qui étaient à Auteuil, dont un qui en plus avait traîné autour de l'affaire du fameux supporter parisien mort. Il avait été impliqué dans cette affaire-là.
Il était dans le procès. C'était à la mort de Yann Laurence, oui.
Et derrière, après quelques années. Quand on va dire le club s'est rouvert aux supporters et notamment à Auteuil et qu'il y a eu reconstruction de la tribune qui petit à petit est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ça a été accepté d'un côté mais pas de l'autre. Et de l'autre, effectivement, il y avait un passé qui était quand même très lourd, mais il y a eu également autre chose, c'est que certains avaient tenté dans un premier temps de relancer cette tribune, mais que les anciens, on va dire durs de Boulogne, avait mis la pression sur ceux qui voulaient relancer la tribune en leur disant « Vous ne le ferez jamais. Mmh. On vous chopera. »
Genre après nous, plus rien, quoi.
Voilà, on vous empêchera de le faire. Donc ceux qui avaient eu l'initiative de retenter quelque chose, de toute façon, à la limite, le club n'a même pas eu besoin de dire non, puisque les anciens... avaient mis leur veto et menaçaient ceux qui voulaient tenter de refaire des animations ou de remettre de l'ambiance. Ils les menaçaient physiquement en leur disant « Vous ne referez plus rien dans cette tribune ». Les choses semblent devoir évoluer. Il y a des gens qui bougent aujourd'hui pour qu'effectivement ça reparte. Mais ce ne sera pas gagné parce que le club est encore un petit peu réticent.
Alors, voilà. Arnaud Leroux est avec nous. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir.
Tu nous entends bien ?
Oui, impeccable.
Impeccable. Arnaud, qui est représentant du Bloc Parisien, alors un groupe de supporters apolitiques, je le précise parce que quand on parle de Tribune Boulogne, souvent on vient sur le terrain politique. Et donc vous dites véhiculer des valeurs de tolérance et de respect. Et alors la démarche là, elle est clairement de la part de toi et de ceux qui t'entourent, de relancer la Tribune Boulogne. Tu fais le même constat que nous là, je veux dire, sur l'historique et puis tout ce qu'on a dit. T'es d'accord à ce que t'as entendu ?
Ah, tout à fait, on ne peut pas nier ce qui s'est passé dans cette tribune et ce qu'on ne veut pas revoir.
Alors, aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que c'est possible de relancer une deuxième tribune festive au Parc des Princes ?
Par le dialogue. Ce qu'on ne sait pas faire en France, à mon avis, on ne fait que de la répression, pas de prévention, pas de dialogue. On n'écoute pas les supporters. On décide pour eux. On les utilise à des fins publicitaires pour les montrer, pour promouvoir la Ligue 1, pour promouvoir le club. Mais en aucun cas, on les écoute.
Il y a eu des initiatives, Daniel l'a dit, qui n'ont pas fonctionné. Vous faites un constat, je reprends les termes du communiqué. Vous dites, nous, en aucun cas, on veut que renaisse la triste rivalité entre Auteuil et Boulogne. On veut juste de l'ambiance au stade. Et vous dites, depuis quelques années, le prix des abonnements a explosé. La plateforme Ticketplace, qui est légale, eh ben, on estime qu'elle est immorale pour une tribune populaire. Voilà, vous me pointez le prix des places. Des fois, il y a des places à 200-250 euros.
Il a parfaitement raison.
Dans la tribune.
Raison.
Dans la tribune Boulogne.
Pour nous,
oui, Arnaud.
Enfin, pour nous, un stade, il faut tout type de supporters. Des supporters en latéral, des supporters plus actifs en tribune populaire. Les virages sont des tribunes populaires où les gens les moins aisés doivent pouvoir venir. Ce qui est devenu impossible au Parc des Princes en tribune Boulogne, où le prix des abonnements est actuellement entre 700 et 800 euros.
En fait, la question qui se pose, c'est de savoir que veut le PSG. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être que pour le business, ne pas permettre à cette partie du stade de redevenir une tribune populaire, on va dire le pendant de ce qui se passe à Auteuil.
Festive, quoi, peut-être.
Ça fait rentrer plus d'argent parce qu'ils vendent les places peut-être plus chères.
Et le PSG touche sur les reventes, hein, je le rappelle.
Exactement. Donc, ça peut être un point de vue de se dire, bon, il y a l'ambiance d'un côté, ça nous suffit. Dans un papier, dans la revue de l'After, pas le dernier numéro, celui d'avant, où j'avais fait un papier si j'étais président du PSG, je disais si j'étais président, je ferais tout pour qu'il y ait une ambiance maximale au Parc des Princes et qu'il y a largement les moyens, effectivement, dans la tribune Boulogne, de faire l'équivalent de ce qu'il y a en face. Parce qu'il y a plein de jeunes à pas. Le stade est petit, 45 000 places au Parc des Princes. Il y a largement les moyens de trouver des jeunes dans Paris qui mettraient de l'ambiance dans une autre tribune. Évidemment, je le dis dans mon papier, il faudrait contrôler, mais aujourd'hui on a beaucoup plus de moyens qu'à une certaine époque pour contrôler si d'éventuels anciens revenaient pour essayer de noyauter le mouvement. Ouais. Je pense que ça se contrôle, mais c'est facile d'identifier les gens qui viennent au stade. Sous cette réserve-là du contrôle, on n'aurait pas une tribune Boulogne et une tribune Auteuil comme avant. On aurait le CUP et on aurait, je ne sais pas comment il s'appellerait, un autre nom en face. Mais on aurait une caisse de résonance et une ambiance au Parc des Princes absolument formidable, qui réjouirait, je pense, et les gens qui viennent au parc et les joueurs qui auraient une ambiance de folie. Mais le point d'interrogation, c'est est-ce que, d'un point de vue financier, le PSG, le club, a envie de ça. Parce que s'ils le veulent, ils mettent ça en place en 10 minutes. Hein, c'est réglé. Et là où j'ai envie de poser la question à... C'est Arnaud qui s'appelle. Est-ce qu'il est en contact avec des gens du CUP ? Parce que moi, je pense que les gens du CUP qui font un travail admirable depuis des années, il faut le dire, Romain Babi, qui est redevenu président du CUP, gère son virage admirablement bien. Il n'y a pas de violence. Même dans la grève l'année dernière, les supporters ont réussi à tout faire dans le calme, à revendiquer dans le calme, dans l'humeur, mais dans le calme. Je me demande si même pour lui, en tant que supporter historique du PSG qu'il est, pour avoir encore plus d'ambiance au Parc des Princes, il n'aurait pas intérêt, puisque eux sont en contact avec le club, ils parlent avec le club, avec Jean-Claude Blanc notamment, à dire, bah écoutez, nous, on n'est pas contre. Oublions Enfin, n'oublions pas l'histoire, mais oublions la rivalité. En plus, là, il n'y aurait plus l'idée de l'hôtel et du Boulogne d'avance. Ça, il faudrait presque même changer le nom. Quoi. Ça voudrait
plus que le nom
dire.
De tribune, en fait.
Voilà. Ça, on oublie un nom, on dit, mais ça nous arrangerait qu'on ait en face une fameuse réponse à nos chants pour que le parc devienne encore plus festif. Ça pourrait venir du CUP qui demanderait au PSG, mais laissez-les faire. Il faut qu'on ait ça. Et contrôler. Qu'on n'ait pas les anciens qui viennent essayer de refoutre la merde. Juste ça. Moi, alors, je pense que ça pourrait être une démarche.
Pardon, Leroux.
Ce que vous disiez, Daniel, c'est que les jeunes, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Ils sont déjà en tribune.
Oui, je sais.
Ils demandent que ça. Malheureusement, vous avez pu le voir depuis le début de la saison, la tribune Boulogne, c'est un mouroir.
Oui, mais c'est un mouroir, pourquoi ? Par exemple, toi, si tu y vas et vous êtes 50, 100 et tout, vous ne pouvez pas prendre les tambours et tout ça ?
Interdiction, c'est pas permis par le club.
Comment garantir qu'il n'y ait pas un noyautage à nouveau des anciens, comme le disait Daniel?
Ils sont tellement, c'est tellement connu des services, il s'est tellement passé de choses. C'est surtout pas à eux de le faire, parce qu'eux, au contraire, ils risquent d'être sous pression. C'est au club de le faire, aux autorités. Franchement, ça se fait très facilement au parc aujourd'hui, tellement c'est connu et identifié.
Arnaud, t'es d'accord avec ça?
Oui, et que chacun prenne un petit peu ses responsabilités. C'est toujours facile de rejeter la faute sur un tel, mais chacun son métier.
Mais je me demande quand même si le point, la réponse n'était pas dans la question de Daniel. Quand Daniel demande, est-ce que le club veut vraiment ? Je ne suis pas persuadé. On sent qu'il y a quand même une sorte de. Alors, je vais peser mes mots parce que je sais qu'il y a aussi un travail. Fait par notamment Jean-Claude Blanc et tu l'as dit avec le CUP. J'avais beaucoup parlé qu'un des membres du CUP que je connais très bien, qui effectivement est très attaché, notamment, enfin ils sont très attachés au fait qu'il n'y ait aucune violence, qu'il y ait toujours une maîtrise des flux et des nouveaux, des entrants. Bon, tout ça marche plutôt bien. Mais je crois que cette réussite-là, j'ai envie de dire, faudrait le vérifier, elle suffit aux dirigeants. Qui déjà entre guillemets tolèrent,
qui sont ça, ils se satisfont oui, de l'ambiance.
En fait, si tu veux, je te dirais même que au début, si on avait expliqué à Nasser et à Raifi comment ça se passait, je pense pas qu'il aurait souhaité de voir autant de fumigènes, autant de choses. Je pense pas qu'il avait cette culture-là. Il a su apprendre, se faire expliquer que si il fallait avoir cette image-là. Toi, tu parles de deux virages. Quand tu vas à Marseille, oui, c'est un des choses, les virages
Paris,
qui se répondent.
Et avant, un acte, tu les autorises, ça redevient le
mais
feu.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que déjà, il y a eu un énorme effort culturel. On va dire qu'ils se sont un peu forcés, je parle des dirigeants du PSG, à faire et à laisser faire ce qui s'est passé avec le CUP. Que le CUP leur rend bien en le faisant pacifiquement. Je sais pas, hein, je souhaite pas tuer dans l'œuf l'initiative de ceux qui veulent faire ça à Boulogne, mais vu le business et la nécessité et le choix même du business fait par les gens du PSG, je suis pas certain qu'ils veuillent refaire une deuxième tribune comme l'autre en face.
Il y a une proposition sur Direct Studio là qui nous vient, Arnaud, qui dit mais pourquoi le CUP ne pourrait pas être actif des deux côtés? Est-ce que vous, par exemple, ton groupe, vous seriez prêt à faire quelque chose ensemble avec ceux d'en face?
On a des rapports cordiaux et respectueux avec le club. Et par contre, il faut comprendre le côté groupe où chaque groupe revendique son indépendance.
Donc vous aimeriez bien développer un groupe spécifique Tribune Boulogne, quoi.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Ouais, et après les autres, c'est-à-dire quoi? En gros, ils enverraient 50 membres de l'autre côté pour. Bah non, parce que toi t'es habitué à venir là, t'es dans ta tribune, t'es avec tes amis et tout. Tu vas pas. Et puis de toute façon, la direction, si elle veut pas que d'un côté ça s'anime, parce qu'elle veut continuer, je sais pas, peut-être à vendre ses places plus chères et tout, ça changera rien pour elle qu'ils envoient 50 mecs. En fait, les mecs qui sont en ce moment à Boulogne, à la limite ils ont pas besoin de Géo pour leur dire comment faire la tribune. Ils pourraient très bien le faire, sauf qu'on ne les autorise pas à rentrer avec des banderoles, du matériel pour mettre de l'ambiance. Non, la seule question, et je la repose, c'est est-ce que le CUP verrait d'un bon œil d'avoir une tribune en face, et si oui, peuvent-ils le demander à la direction avec pour objectif un Parc des Princes qui retrouve une ambiance de feu avec deux tribunes comme il y a pu avoir à une époque, mais sans la violence. Et là, je pense que le Parc des Princes deviendrait un stade absolument incroyable.
Arnaud, tu as une réponse ?
Oui, je pense tout à fait que, comme disait Daniel, le Parc des Princes reviendrait un endroit incroyable niveau supporterisme. Et vu les ambitions du club d'un point de vue sportif, je pense qu'il le faut.
Bon, il est vrai que...
Mais tu ne sais pas si le CUP verrait ça d'un bon œil.
Ça, je n'ai pas la réponse.
Bah, je vais leur demander. Je leur demanderai.
Voilà. Et nous, c'est vrai que, bon, aujourd'hui, le parc, enfin, l'ambiance du Parc des Princes, on va dire, n'est pas à la hauteur de ce qu'il y a sur le terrain, en fait.
Oui, bien sûr. Mais parce que voilà. C'est la volonté du club. D'un côté, il y a, y a une très bonne ambiance, le CUP fait parfaitement son travail, mais c'est un quart du stade. Enfin, un quart.
Ah, tiens, il y a un truc intéressant que développe Arnaud aussi dans son communiqué. À Dortmund, pour éviter ce genre de problème, on a mis en place une formule pour les touristes, en fait. Hôtel plus stade, mais qui est disponible uniquement en latéral. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on veut limiter le tourisme footballistique qui existe dans tous les grands stades d'Europe, hein, en fait, au fond. Hein, je veux dire, il y a plein de gens qui vont en week-end dans telle ville, en disant, tiens, je vais aller voir un match. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison non plus d'interdire à ces touristes-là d'avoir un accès
mais
au stade.
Mais c'est vrai qu'il faut le réglementer. Oui, mais après, c'est un problème de place, même pour les touristes, comme tu dis, même pour ceux qui veulent y aller. Quand tu as la chance, moi, je suis allé au Bernabeu, bon, je ne devrais pas le dire, mais j'ai acheté des places au Black parce que le truc était plein. J'ai pris ce qu'il y avait, et ce qu'il y avait, c'était derrière les buts. Bah, tu vois, et sinon, tu peux pas avoir le match non plus. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, comme dit Daniel, c'est un problème de qu'est-ce que veut faire le PSG. Moi, je pense que le PSG, qui voit ça comme un énorme spectacle, considère aujourd'hui, et c'est déjà une avancée, que ce que propose le CUP, Tifo, et compagnie, bah, ça fait partie du spectacle aussi. Ils ont accepté ça, tant mieux. Pour le supporterisme, mais je suis pas certain qu'ils veuillent le développer à outrance dans le SAD. Je pense qu'ils veulent un équilibre c'est déjà un grand pas en avant, hein, ça, un équilibre, mais quand même avec les trois autres quarts et c'est même un peu plus du stade où tu peux faire du business et vendre des places.
Arnaud, un truc à rajouter pour être complet sur le sujet ou on a à peu près tout dit là?
Oui, voyez l'hypocrisie quand même, c'est que notre président, on l'a vu pour la Super League, il s'est posé comme sauveur du football populaire en
c'est
Europe.
C'est vrai.
Et il n'est pas capable de le faire dans son stade. Je reste sur ma position, un virage, c'est une tribune populaire. Actuellement, Boulogne, c'est Disneyland. Il y a une multitude de maillots, Barça, Real, etc., les amoureux du PSG ne peuvent plus venir à Boulogne.
Tu sais ce qu'ont fait certains groupes de supporters marseillais à l'OM, enfin au Vélodrome.
Ah mais ça tu peux pas le faire à Paris. Ça.
Ils ont interdit clairement en disant ici c'est pas, vous êtes pas à Munich, vous êtes pas à Barcelone, ici c'est maillot de l'OM ou rien. Avec des affichettes qui l'expliquent à l'entrée du stade.
Ça je l'ai vu, mais ce serait largement possible au CUP. Enfin, à Auteuil, pas à Boulogne.
À Auteuil, je suis pas sûr que t'as des maillots de clubs étrangers. Hein. Je suis pas sûr que les mecs rentrent comme ça. Il a dit, mais écoute, casse-toi avec ton maillot. Excuse-moi, mais c'est aberrant. Moi, je trouve ça insupportable. Tu vas au stade voir PSG, je sais pas quoi. Tu vas avec un maillot du Real ou du Barça. On est au comble de la footixerie.
Sur l'insupportable. Moi, ça me dépasse. Moi, il y a un autre truc qui me choque de plus en plus. C'est les gens qui vivent les matchs de foot par leur portable.
Oh,
donc les Insta, TikTok.
Oui, c'est
donc t'as entrée des équipes ou à but, t'as 200 mecs, 200 personnes là alignées avec le téléphone en train de filmer ce que tout le monde a déjà vu. Donc pourquoi
moi je me suis toujours demandé.
Moi c'est un truc, j'ai jamais compris l'intérêt.
S'il y a des concerts et tout, je me suis toujours demandé, mais le gars après il rentre chez lui, il a 40 vidéos, mais il se les regarde vraiment toutes ces vidéos?
Non, c'est pire que ça.
Il se regarde les vidéos du stade.
C'est un truc générationnel, peut-être on comprend pas.
Le pire, c'est pas qu'il se les regarde, Daniel, c'est qu'il fait ça pour montrer qu'il est là. C'est-à-dire qu'il les regarde même pas, il les envoie directement pour dire je suis au concert.
Oui, il les publie, voilà.
Ah, il les envoie à des potes, tu dis.
Oui,
il publie sur Insta ou sur
Regardez,
Twitter,
je suis au concert des Rolling Stones, regardez ce que je bouffe dans ce bon resto, machin. Alors que, au lieu de faire ton plaisir, effectivement, et de profiter du moment, mais effectivement, c'est générationnel, tu le montres. Mais ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, tu viens à un moment fort, bon, tu le rates un peu parce que tu le photographies ou tu le filmes, mais l'idée, c'est même pas pour regarder un souvenir, pour le regarder, c'est de montrer aux autres.
Moi, je veux bien filmer si je suis dans un resto, un truc comme ça, mais si jamais quelqu'un me voit sur Insta en train de mettre un plat de bouffe que j'ai bouffé, si on peut venir me mettre les menottes et m'emmener en prison, j'accepte.
Oui, j'avoue que c'est un truc que j'aurais du mal à comprendre moi aussi. Publier sa bouffe, c'est bizarre. Bon. Bon, bref. Merci Arnaud, en tout cas, c'était intéressant. Et alors, bon, on suit hein, le dossier, du coup, on va voir si vous y arrivez dans les mois qui viennent. Mais moi, j'adhère, on va en reparler dans quelques instants, là. Effectivement, la contradiction de Nasser Al-Khelaïfi et cette histoire de revente de place, surtout, qui, moi, me choque de plus en plus. On en reparle dans quelques instants. Merci Arnaud.
Je peux juste sur les reventes de places.
Ouais, vas-y, tu peux dire un mot. Ouais.
Bah, sur les reventes de places, si vous avez un abonnement à 700 €, si vous revendez toutes vos places, vous pouvez gagner aisément 2 000 € sur la saison.
D'ailleurs, 2 700 € en tout de vente.
Ça peut devenir un investissement. C'est quoi?
Je te reprends dans quelques instants. Ouais, c'est une meilleure renta que tous tes placements immobiliers, Daniel. Hein. Allez, tout de suite dans l'after, on en reparle. Bouge pas, Arnaud, parce que du coup, ça me donne envie de te poser d'autres questions.
Tu peux vider ton code EVI pour acheter des places.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, toujours avec Arnaud Leroux, qui représente le bloc parisien, groupe de supporters
qui vont.
Alors, il y a de Leroux, la Chicorée aussi.
Il y a la Chicorée.
Voilà. Il y en a eu beaucoup dans le foot aussi.
Ils vont, c'est un peu plus foot.
Comme les Fofana dont on parlait tout à l'heure.
Leroux, il y avait le.
Leroux en un mot ou en deux.
Il y avait Christophe aussi.
Christophe Leroux,
ouais. Ils vont l'été aussi.
Ah bah, Leroux, ouais, à la base.
Bon, c'est breton. C'est vrai.
Il y avait Adrien Quatennens aussi.
Arnaud, j'ai fait un petit calcul là. Ah là. Donc, tu rigoles à ces blagues bidon, toi.
Mais non, parce que j'avais pas compris le rapport, mais après j'ai compris.
Donc un abonnement à 800 €, ça fait un match de Ligue 1 à 42 €.
C'est ça, à peu près.
Bon,
L'abonnement, il est à 730 au comptant et 792 en mensualisé.
Bon, voilà, donc on arrondit à 800.
Voilà.
Allez, on va dire que dans au moins plus de la moitié des stades de Ligue 1, tu peux avoir des abonnements avec des places à 5-6 €, hein, dans les tribunes populaires.
C'est à peu près ça. Là, avec la plateforme de revente Ticketplace, les 19 matchs de championnat, vous pouvez les revendre entre 50 et 200 € pour un classico, admettons. En moyenne, on va dire 100 €.
Est-ce que vous avez déjà spoté, repéré des gens qui en fait ont des abonnements et qui ne viennent jamais et qui finalement font que de la rentabilité?
C'est impossible à voir, mais il y a des gens qui doivent jamais venir. Il y a énormément de CE en tribune Boulogne maintenant, donc les places c'est pour leurs employés. Mais donc si on fait un rapide calcul, je pense que à Boulogne, vous payez votre abonnement 800 €. Vous pouvez vous faire sur la saison, il y a les matchs de Ligue des Champions qui se revendent à des prix d'or. Vous pouvez vendre vos places facilement sur la saison 2500.
Mais l'abonnement à 800, il est sans les matchs de Ligue des Champions?
Si, non, il est avec les matchs de Ligue des Champions.
Ah, avec les matchs de Ligue des Champions? Ah oui, si oui. T'as un groupe intéressant et tout, oh là là, tu peux. Voilà, c'est une renta magnifique.
La Juve, à Boulogne, on peut le revendre facilement 200-250 €.
Oui, là, on ne parle pas d'un livret A, là. On n'est pas sur 2% de rentabilité.
Ah, ouais, là, on est sur une belle, belle renta, là. Hein.
Mais alors, moi, est-ce que je.
En sachant que si vous rendez une place 100 €, vous ne touchez que 88 € parce que la plateforme de revente prend 12 € de commission. Mais elle prend aussi une commission sur le vendeur.
Donc en fait, c'est une double billetterie légale, quoi.
Ah, par contre, c'est on ne peut plus légal. Hein. C'est pas très moral.
Ah oui, non, ça c'est pour le. Oui, ça c'est. Tu as absolument raison. C'est quand même. Franchement, c'est incroyable cette double billetterie.
Bien sûr. Il y a des clubs qui sont tombés à l'époque pour double billetterie.
Daniel Echter au PSG 78.
Voilà. Par exemple. Et là, le PSG a réussi l'exploit de rendre ça légal.
Il avait revendu 4 places sous le manteau.
Je précise que ça existe dans d'autres clubs européens. Hein. C'est pas une spécificité parisienne.
Je sais. Bon. Je trouve que c'est, comme dit Arnaud Leroux, c'est totalement immoral. C'est vrai.
Bon, voilà. On a déjà.
Et en plus, alors, ça alimente la footixerie.
Alors, attention, parce que les clubs le justifient en disant oui, mais regarde, oui, mais du coup. Non, c'est pas ça l'argument principal. C'est ouais, mais du coup, ça évite le marché noir. T'as personne qui va avec son abo ou sa place devant dire ah bah tiens, je te la refile.
Ah oui,
c'est l'argument.
C'est pas du marché noir, il y a la commission de 12 balles pour le club.
Non, mais là, en fait, c'est.
C'est le club qui a aspiré le marché noir.
Ben voilà, c'est beau.
C'est
le capitalisme.
Voilà, c'est
ouais, mais alors il est vrai que si tu veux aller par là, la seule justification, c'est un, bon, que tu remplis ton stade et que tu évites éventuellement des places vides, et que deux, tu payes. Et que
moi, j'ai été abonné longtemps, avec plein de gens qui étaient abonnés, on ratait pas un match. Hein.
Non,
quand t'es abonné, que t'es supporter, tu rates pas un match.
Et que deux, le club paye des taxes aussi sur ce business-là. contrairement à un marché noir qui échappe à toute économie.
Arnaud, en tout cas, merci de nous avoir à nouveau alerté sur cette question qu'on suit de près dans.
Et surtout, au-delà de cette question, bon courage dans votre projet. Et je me renseignerai pour savoir si le CUP est bienveillant ou malveillant à l'égard d'une tribune en face de la sienne.
Merci Arnaud Leroux, bonne soirée, à bientôt.
Salut. Merci de nous avoir écouté le Bloc Parisien.
Ça marche, salut. Le classement des pigeons, vous en faites pas.
Voyons, décidément.
On le fera après
c'est
demain.
C'est le meilleur teasing de l'année.
Ah merde, oui. C'est fini, il n'y a pas le classement des pigeons.
Mais alors,
parce qu'on peut juste avoir vite fait le jingle pigeon avant de partir.
Alors oui, parce que maintenant il y a trois. Alors, attends, on va te faire un méga teasing parce que Paul Vecchio a bossé. Il a préparé trois jingle pigeons.
Ah.
Oui, parce que dans le classement des pigeons, il y a le pigeon de bronze, pigeon d'argent, pigeon d'or.
D'accord.
Est-ce que c'est prêt, Paul ? Est-ce
l'école que tu peux du nous... micro d'argent et l'école du pigeon d'argent.
Ah, jingle de base déjà.
Pigeon. Oiseau à la grise robe. Tu es vraiment le plus agile.
Ça, c'est jingle pigeon de base.
Oui, ça, voilà. Ça t'a raté un transfert.
Jingle pigeon de bronze maintenant. Il va arriver dans quelques instants. Je ne dis pas quel club c'est, hein. vous le saurez après-demain. Ah, mais il le retrouve.
C'est juste trop fait, en fait.
Alors passons peut-être le jingle pigeon d'or qui est pour
le pigeon d'or, ça a été acheté Maguire 82 millions.
Il les a paumés. Il a fait son montage et maintenant il les a paumés.
Non, mais Paul, bordel. Qu'est-ce qu'il était au golf cet après-midi?
Bah, c'est pour
ça qu'il les a perdus.
Sans doute.
Oh merde.
Bah, il pleuvait donc il a eu le temps de faire des jingles, mais du coup il les a paumés. Ah, bah, et pigeon de bronze, on y va. Ouais, petit pigeon, quoi. Pigeon de bronze.
Ouais.
Pigeon d'argent.
Pas la différence.
Et bien sûr, il y a une différence, elle est énorme.
C'est un pigeon amoureux.
C'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus.
Ouais, non, y a
donc,
rien.
Il y a une présence à l'antenne.
Non.
Beau pigeon. Un beau pigeon. Allez, dans quelques minutes, la rediff d'Estelle Denis et demain, je la
fais
à la 20h en direct du Parc des Princes, spécial Coupe du Monde avec Brésil-Tunisie. À demain soir.
RMC, l'after foot.